بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 31 dans l'explication du livre Sharh Usul Iman du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Cheikh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Et le titre de, donc on est dans le chapitre de Al-Qadar au sujet de la prédestination, et le hadith qu'on va expliquer aujourd'hui c'est le hadith numéro 43 et qui est intitulé Kitabatul Amal wal Ajal wal Risq wal Shaqa wal Sa'ada. C'est-à-dire que yani l'écriture, parce qu'on sait que nos œuvres sont écrites, tout ce qu'on fait, tout ce qui arrive dans la création, c'est écrit par Allah. Et il y a l'écriture individuelle de chaque personne, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un naît, l'ange vient pour écrire ses œuvres, son terme, c'est-à-dire quand est-ce qu'il va mourir, son risque, qu'est-ce qu'il va avoir comme subsistance, et est-ce qu'il sera heureux ou malheureux. Donc, le cheikh, il cite ce hadith, qui est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qui est connu, il fait partie des 40 hadiths de An-Nawawi. Il dit, « قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق » Donc souvent, quand on parle de ce hadith-là, on dit « hadith » حديث الصادق المصدوق. يلدي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa as-sadiq, as-sadiq, c'est-à-dire celui qui est véridique, et al-masduq, c'est-à-dire celui en qui les gens, celui que les gens ont cru en sa parole. Et il dit, il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la création de l'un d'entre vous, elle est dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous forme de nutfa. Hein? Et il dit, et il va être en une forme de alaqa pendant un nombre égal de jours. C'est-à-dire, pendant 40 jours, il va être une alaqa. Puis, pendant 40 jours encore, il va être une mudra, sous la forme de mudra. Il dit, puis ensuite, Allah Azza wa Jal va lui envoyer en passant, les termes alaqa, nutfa, alaqa et mudra, c'est les termes qui déterminent l'évolution de l'embryon dans le ventre de la mère. Hein? Donc, c'est les différents termes qui sont employés dans la sharia pour désigner le développement de l'embryon. Nutfa, après ça devient alaqa. Alaqa, ça veut dire quelque chose qui est accroché. Puis après, mudra, quelque chose qui a la forme d'un objet dans lequel on a quelque chose, une pâte dans laquelle on a mordu. Hein? Donc on voit la forme, quand on prend une pâte, on mord dedans, on voit la forme des dents, et c'est exactement l'image qu'on a lorsqu'on voit les radiographies du bébé qui se développe dans le ventre de la mère, et avec la colonne vertébrale qui commence à se développer, et la tête, ça fait comme la forme des dents. Avec la forme des dents, ça fait comme cette forme de colonne vertébrale. Et là, c'est quelque chose qui est une belle représentation. Quand Allah Azza wa Jal, il utilisait ces termes-là, c'est des termes qui nous donnent exactement le sens de qu'est-ce que ça représente en réalité. Donc, il y a 40 jours, plus 40 jours, plus 40 jours, ça fait en tout 120. Hein? Pendant 120 jours, il y a cette transformation-là qui se fait dans le ventre. Et c'est à ce moment-là c'est-à-dire après les 120 jours, hein, parce que 40 plus 40 plus 40 égale 120. Donc, ça veut dire 4 mois, hein, 4 mois, si je ne me trompe pas, 4 mois. Donc, après 4 mois, l'ange descend, ok, et il écrit 4 choses. Il écrit son œuvre, son terme, son risque, sa subsistance, et est-ce qu'il sera heureux ou malheureux? Malheureux ou heureux? Et ensuite, l'ange souffle l'âme dans ce corps. Parce qu'à ce moment-là, le fœtus, l'embryon qui commence à se développer, il n'est pas encore vivant. Parce que l'âme n'est pas encore entrée. Après 120 jours, l'âme, elle est insoufflée dans cet embryon-là. Et c'est là qu'il commence à vivre. D'accord? Et souvent, c'est à ce moment-là, les femmes, elles disent, à partir du quatrième mois, c'est là qu'elles sentent qu'il y a des mouvements. Hein? Elles commencent à sentir que le bébé commence à bouger. Avant ça, non. Et donc, l'ange, il vient, il écrit sur cet embryon-là ces 4 choses qui ont rapport à son destin, et l'ange souffle l'âme, hein, dans ce fœtus-là. Et il dit, et par celui qui tient, il dit par celui qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré autre que lui, l'un d'entre vous fait les actes des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une petite distance entre lui et le paradis. Et la distance qui est mentionnée en arabe, c'est al-zira. Al-zira, c'est l'avant-bras. Donc en français, on a traduit ça par une coudée. Hein? Parce que c'est la distance qui commence par le coude jusqu'au doigt. En arabe, on appelle ça al-zira. C'est l'avant-bras. D'accord? Al-yad, en arabe, al-yad, c'est de l'épaule jusqu'au doigt. On appelle ça al-yad. C'est le bras, en fait. Mais si on spécifie, c'est à partir du poignet, hein, jusqu'à la main. Nous, c'est en français, quand on dit la main, ça désigne cette partie-là. Sauf qu'en arabe, il y a un terme pour chaque partie de la main. C'est-à-dire, chaque partie du bras, il y a un nom. D'accord? Et al-dhira, c'est à partir du coude jusqu'au doigt. Et donc ici, il dit, donc quelqu'un va faire les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et le paradis, et ce qui a été écrit pour lui prend le dessus et il se met à agir par les actions des gens de l'enfer, puis il rentre en enfer. Et le contraire est vrai également, quelqu'un va faire les actions des gens des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et l'enfer, et il est précédé par ce qui a été écrit. Et il se met à faire les œuvres des gens du paradis, puis il rentre, hein, au paradis. Muttafaqun alayhi. Il y a une autre narration de ce hadith-là qui mentionne, qui a un ajout dedans, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fima yadharu linnas ». C'est-à-dire que la personne, elle va faire les actions des gens du paradis dans ce qui paraît aux gens, c'est-à-dire en apparence. D'accord? Et donc, en réalité, c'est pour dire que la personne, elle peut bien faire les actes des gens du paradis en apparence, mais on ne sait pas l'état de son cœur, qu'est-ce qu'il y a dedans. Hein, parce qu'il y a des munafiqines, il y a toutes sortes de catégories de personnes. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce hadith-là, donc on va lire le charh. Il dit, « Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, 40 yawman nutfa. An-nutfa, huwa al-maniyu alladhi yaqdhifuhu ar-rajul fi rahmi al-mar'a. فيبقى منيا 40 يوما ثم بعد 40 يتحول إلى علقة يعني إلى دم فيبقى 40 يوما كذلك وهو دم ثم بعد 40 الثانية يتحول إلى مضغة يعني قطعة لحم والمضغة يعني هي التي تكون منها تركيب الإنسان من العروق والأعضاء والعصب والسمع والبصر والعظام وغير ذلك من تراكيب الإنسان. ثم في 40 تنفخ فيه الروح بعدما يأتيه الملك، ثم يؤمر الملك بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه، وهل هو شقي أو سعيد، وهي كتابة خاصة غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ، بل هي كتابة مأخوذة من اللوح المحفوظ التي هي كتابة عامة. فهناك كتابة خاصة وكتابة عامة. من المكاتبات الخاصة ما يأتي في ليلة القدر، ومنها ما جاء في هذا الحديث، وأما ما يأتي في كل يوم من الأيام فكلها من كتابة من باب الكتابة الخاصة المنقولة من اللوح المحفوظ. Donc ici le cheikh il explique que يعني quand on dit 40 jours l'enfant il va être une nutfa ou bien plutôt l'embryon est une nutfa. Nutfa c'est-à-dire c'est يعني le spermatozoïde qui est jeté par l'homme dans l'utérus de la femme. Il va rester dans cette forme-là, ou bien disons, il va rester dans cette petite forme pendant un certain nombre de jours, il dit 40 jours, puis après, il se transforme en alaqa. Et alaqa, c'est comme ça ressemble à du sang coagulé, une forme de caillot de sang. Et il dit, ça va rester comme ça pendant 40 jours encore, jusqu'à ce que ça se transforme en un morceau de chair, un morceau de viande. C'est ça qu'on appelle al-mudra. C'est à ce moment-là que commencent à se former les différentes parties qui composent le système du corps humain. Les veines, les nerfs, les membres, les bras, les jambes, le cou, la tête commencent à apparaître. L'ouïe, la vue, les ossements, tout ça commence à se développer petit à petit. Et beaucoup d'autres choses également qui commencent à apparaître. Donc, à la fin de ces 40 derniers jours, donc c'est-à-dire à la fin de ces 120 jours, il y a l'âme qui est soufflée à l'intérieur de cet embryon, qui est amenée par un ange. Et cet ange, en même temps, est ordonné d'écrire 4 choses, d'écrire ses œuvres, d'écrire son terme, c'est-à-dire jusqu'à quand il va mourir, quand est-ce qu'il va cesser de vivre, sa subsistance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va obtenir comme risque, et est-ce qu'il sera malheureux ou heureux. Et il dit que ça, c'est une écriture qui est particulière, différente de l'écriture de Allah al-Mahfouz. Il dit que qu'est-ce qui est écrit dans la table préservée, qu'on appelle Allah al-Mahfouz, il y a dedans la prédestination générale de tout ce qu'il y a dans la création. Tandis que dans cette écriture-là, ça c'est une écriture particulière à chaque individu qui est tirée de la table préservée. D'accord? Et il dit donc, il y a une écriture générale et une écriture spécifique ou particulière. Et il y a aussi les écritures de la destinée, de la nuit du destin, Laylatul Qadar. Et celle-là aussi est tirée de يعني اللوح المحفوظ. Donc après le cheikh il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Al-'alaqa yani qit'atu al-lahm. Yani kama fi qawlihi ta'ala wa laqad khalaqna al-insana fi wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. يعني وتفصيل هذه الأمور في سورة المؤمنون، وقوله في سورة في الآية الكريمة من سلالة من طين، يعني آدم عليه السلام. والقرار المكين هو رحم المرأة الذي هو ثابت لا يتغير، والنطفة يعني مستقرة فيه دون اضطراب. وقوله ثم خلقنا النطفة يعني المني علقة يعني دما يعلق باليد. يعني جاء بثم التي تفيد التراخي، إذ كل طور له 40 يوما، فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يعني قوله ثم يعني يبعث الله إليه الملك. Ok, donc ici le cheikh ensuite il explique le point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ثم يكون علاقة مثل ذلك, c'est-à-dire que l'être humain il va être une alaqa, donc un nombre équivalent de jours, c'est-à-dire 40 jours. Et là il cite un verset dans Surat al-Mu'minun, qui est le verset 12 à 14. Et dans ces versets-là, Allah Azza wa Jal, il décrit le développement de l'embryon dans le ventre de la femme. Et si je peux trouver l'exemple ici, je vais vous lire la traduction. Donc on va voir comment ça a été traduit. Dans le verset 12 à 14 dans Surat al-Mu'minun, Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Donc c'est comme ça qu'ils ont traduit le terme yani nutfa par sperme, hein? Donc c'est probablement le spermatozoïde ici, et après une adhérence. Une adhérence, c'est ça qu'ils appellent al-alaqa. Et il dit, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Al-mudra, ils l'ont traduit par embryon. Donc ici, le cheikh, il explique que, il cite ce verset-là, il dit, nous avons créé des os, et nous avons revêtu l'os de chair, et ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre créature. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et puis, ensuite, il dit, et puis après cela, vous mourrez. Et puis, au jour de la résurrection, vous serez ressuscité. Donc, Surat al-Mu'minun, c'est vraiment une très belle surat. Il y a beaucoup de choses intéressantes comme ça dedans. Et donc, quand il dit que, à l'origine, vous avez été créé par de la terre ou de la boue, tin, c'est de la boue. Ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la création de Adam, alayhi salam. Parce que, bien entendu, c'est lui qui a été créé de boue à la base, et non pas chacun d'entre nous. Mais notre origine, hein, c'est Adam, et Adam, lui, son origine, c'est la terre, la boue. Et nous, on a été créés à partir d'une goutte de sperme, comme Allah Azza wa Jal, il le mentionne dans plusieurs versets. Et il dit... Al-Qarar al-Makin, c'est yani, l'utérus de la mère, hein, l'utérus de la mère dans le ventre. Et c'est un endroit qui est fixe et stable, hein, qui ne bouge pas ou qui ne change pas. Et l'utérus, quand elle s'installe à l'intérieur, quand le spermatozoïde s'installe à l'intérieur, et qu'il commence à se développer, il est stable. Et ensuite, il dit, puis nous avons créé yani, une nutfa, c'est-à-dire à partir du sperme, on a créé une nutfa, et puis après une alaqa, ils ont traduit par l'adhérence, c'est-à-dire quelque chose qui s'accroche. Et ensuite, il dit, après ces jours-là, donc ça se transforme en un embryon, ça devient comme... un embryon, puis ça se développe jusqu'à ce que ça devienne un fœtus et ainsi de suite. Donc il dit qu'on recouvre, hein, on a créé les ossements, puis on recouvre les ossements de chair, puis on en fait une toute autre créature. Ça me fait penser, quand je vois ce développement-là qui est mentionné, au développement de... quand on voit la transformation d'une chenille, quand elle se transforme pour devenir un papillon par la suite, elle devient une toute autre créature. Hein? Il y a des animaux comme ça dans leur vie, certaines créatures, quand ils sortent au monde, ils sont sous une forme, puis quand ils grandissent, ils deviennent une autre forme, puis après, ils se transforment encore une fois pendant leur vie pour devenir une autre créature. Hein? Donc, Allah Azza wa Jal, il est capable de faire ce qu'il veut. Hein? Subhanallah. C'est pour ça qu'il dit Tabarakallah, Ahsanul Khaliqin. hein, que béni soit Allah, le plus noble, le meilleur des créateurs. Il dit ensuite, وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكِ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحِ لِيُحْيِي وَيَتَحَرَّكِ وَلِذَلِكَ يَتَحَرَّكُ الْحَمْلِ فِي الشَّهْرِ الرَّابِعِ. Il dit ensuite, Allah Azza wa Jal, il envoie l'ange pour souffler l'âme dans l'embryon, dans le fœtus. Et là, à ce moment-là, il commence à bouger. C'est pour ça que dans le quatrième mois, c'est là qu'on voit que le bébé commence à bouger. Et il dit, وَقَوْلُهُ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ مع نفخ الروح فيه يكتب ما يجري عليه من الكتابة الخاصة بالنسبة لكل فرد من بني آدم وأما الذي في اللوح المحفوظ فهي كتابة عامة للجميع فلا تعارض بين الكتابتين فالكتابة العامة سابقة لخلق السماوات والأرض والكتابة الخاصة تتكرر بإذن الله إلى آخر الخليقة مع كل مولود. Donc le cheikh explique que l'ange il écrit quatre choses, yani son œuvre, son terme, son risque, et est-ce qu'il sera malheureux ou heureux, c'est-à-dire est-ce qu'il va aller au paradis ou en enfer, hein? Et yani ma'anafri ruh, le fait de souffler cette âme, hein, c'est à ce moment-là donc qu'il commence, on a dit qu'il commençait à bouger, et sa destinée est écrite en même temps. Ça, c'est pour chaque individu parmi les fils d'Adam. Et il dit, tandis que ce qui est écrit dans la table préservée, c'est l'écriture de toute la création, toute la destinée de toute la création au complet. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux choses qui sont écrites, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la table préservée et ce qui est écrit dans le cou de chaque créature. Les deux ne sont pas en contradiction. Au contraire, ce qui est écrit par l'ange, ça vient de ce qui est dans la table préservée. Sauf que la table préservée, c'est l'écriture générale qui a été écrite avant la création des cieux et de la terre, de qu'est-ce qui allait arriver jusqu'à la fin des temps. Et l'écriture individuelle, c'est pour chaque personne lorsqu'il naît jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire jusqu'à la dernière personne qui va venir au monde dans ce bas monde. وقوله ثم ينفخ فيه الروح يعني كقوله تعالى ونفخ فيه من روحه أي من روح الله أو من روح الله عز وجل المخلوقة فالروح مخلوقة وإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه فهي ليست من صفات الله عز وجل وإنما معنى قوله من روحه أي الروح المخلوقة له سبحانه وتعالى. Donc ça c'est un point important. Le cheikh il explique, il dit que quand il dit que l'ange vient pour insuffler de l'âme, hein, l'âme en ce bébé ou en ce fœtus, le cheikh explique que ça veut dire l'âme créée par Allah, hein. Parce que dans le verset 9 dans sourate As-Sajda, Allah Azza wa Jal il a rattaché l'âme à lui-même, dans le sens qu'il dit, il a soufflé en lui de son âme, hein? C'est-à-dire le pronom possessif ici. Et en réalité, l'âme en question ici, c'est pas l'âme d'Allah, dans le sens que c'est une partie de lui-même, mais plutôt c'est l'âme d'Allah. Allah Azza wa Jal, il se l'attribue pour l'honorer, hein? Et non pas pour dire que c'est lui-même, mais c'est plutôt quelque chose qu'il a créé, hein? Comme on dit Baytullah, la maison d'Allah, ou Naqatullah, hein? La chamelle d'Allah, et ainsi de suite. Donc c'est ça que le cheikh dit, idafatuha ila Allah, idafata makhluq ila khaliqihi. Donc c'est une créature qui est attribuée à son créateur, et non pas idafatazat, hein, c'est pas un attribut de son être. Parce que les soufis et les gens de bid'a ou bien des kuffars aussi, ils interprètent ça de cette façon. Ils pensent que l'âme humaine elle est divine parce qu'ils pensent que c'est une partie d'Allah. Et c'est ça qui est un kuffre, shirk, de penser ça. Exactement, exactement. Les chrétiens eux-mêmes, ils pensent ça. Ils pensent que l'âme humaine, elle est divine. Ils disent que le corps est le temple de Dieu. Hein? En voulant dire qu'ils pensent que l'âme humaine est divine elle-même et qu'elle vient de Dieu ou qu'elle est une partie de Dieu. Et même beaucoup d'entre les gens qui croient en des idées ésotériques à notre époque, parmi les différents mouvements New Age qui existent, ils disent que tous les hommes sont Dieu. Hein, parce qu'ils pensent que justement, chacun d'entre nous, on a une part de Dieu en nous-mêmes. Hein? Donc, je me rappelle, il y en a un qui disait, If you want to see God, look in the mirror. Hein? Si tu veux voir Dieu, regarde dans le miroir. Hein? Ouais, il y a aussi les soufis qui croient à l'Huloul, à l'Ittihad, aussi Wahdatul Wujud. Ils pensent que puisque Allah est tout, et qu'il est partout et en tout. Donc, ils vont aller jusqu'à dire même qu'ils sont eux-mêmes Dieu. Hein? Wal-iyazu billah. Donc, tout ça, c'est des déformations de la signification du verset. Non. Le verset 9. Wa nafakha fihi min ruhi. Et aussi, yani min ruhihi. Hein? Nafakha fihi min ruhihi, de son âme. Et il y a aussi waruhun min, en parlant de Isa alayhi salam, une âme hein, de lui, c'est-à-dire créée. Et non pas que c'est yani Allah azza wa jal, il a des âmes et que lui-même il se sépare ou qu'il donne ses âmes, son âme à des créatures. Non. Allah, ça fait pas partie de ses attributs. L'âme fait pas partie des attributs d'Allah. D'accord? En disant âme, on veut dire ar-ruh ici. Donc, le cheikh, il spécifie que ar-ruh ici, c'est al-makhlouqa. Hein? Lahu subhanahu. C'est-à-dire, c'est Allah qui l'a créé. Et la preuve, c'est que l'ange, il l'apporte. Hein? C'est l'ange qui l'amène pour souffler l'âme en l'homme. Et comme l'âme aussi a soufflé l'âme en Isa, en la mère de en Maryam, l'âme de Isa, elle l'a soufflé en Maryam. Donc c'est la même chose. Il dit wa qawluhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhira' fiyasbiqu 'alayhi al-kitab fiy'amalu bi 'amali ahli an-nar fiyadkhuluha wa idha qaddara annahu min ahli an-nar fala budda أن يعمل بعمل أهل النار إما في كل عمره ويكون من أهل المعاصي وأهل الكفر ويموت على هذا وإما بأن يعمل بعمل أهل الجنة يعني يختم له بعمل أهل النار فتسوء خاتمته فيدخل النار أو العكس يعمل بعمل أهل النار طول عمره ثم يختم له بعمل صالح فيكون من أهل الجنة والأعمال بالخواتيم وفي هذا مسألتان المسألة الأولى أنه لا بد من العمد والمسألة الثانية أن الأعمال بالخواتيم ولذلك لا ينبغي أن يشهد لأحد بجنة أو نار لأنه لا يدرى ما يختم له لأنه في علم الله عز وجل. Donc le cheikh il dit يعني que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la suite du hadith donc que l'un d'entre vous fait les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et le paradis, puis ce qui a été écrit pour lui prend le devant et il fait les œuvres des gens de l'enfer, puis il rentre finalement en enfer. Hein, wal'iyadu billah. Donc lorsque l'enfer ça a été prédestiné que quelqu'un sera du nombre des gens de l'enfer, alors, il doit commencer à faire les œuvres des gens de l'enfer. Soit pendant toute sa vie, il va le faire jusqu'à sa mort, ou soit qu'il va faire les gens, soit qu'il va être parmi les gens du péché et les gens de la mécréance, puis il va mourir sur ça. Hein? Donc, soit qu'il va faire ça pendant toute sa vie, puis qu'il meurt sur la mécréance et sur les péchés, comme les gens de péché. Ou bien il va faire les œuvres des gens du paradis à un certain moment donné, pendant sa vie, puis après il va conclure sa vie en faisant les actions des gens de l'enfer ou les gens du feu. Et donc, il aura à cause de ça une mauvaise fin. Il va terminer en enfer. Ou bien le contraire peut être aussi possible, c'est-à-dire que quelqu'un fasse les œuvres des gens de l'enfer pendant toute sa vie, puis qu'à la fin de sa vie, il termine en faisant des bonnes œuvres. Et ça, ça se peut aussi. Il y a des gens qui se rachètent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vécu des très, très mauvaises vies, qui ont fait beaucoup de mauvaises choses pendant toute leur vie, dans le coffre, dans le shirk et dans l'égarement. Puis à la fin de leur vie, ils réalisent qu'ils étaient dans l'erreur et qu'ils ont fait trop de mal. Alors, ils se repentent et ils se mettent à faire les œuvres des gens du paradis, puis ils rentrent au paradis. Hein? Ils disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », puis ils meurent. Hein? Subhanallah. Et ils sont parmi les gens du paradis à cause de ça. Donc, le cheikh, il dit, il y a deux choses à tenir compte ici. Le premier, la première chose, c'est qu'il faut absolument faire les œuvres. Parce que chacun, il va obtenir selon ce qu'il a fait. Donc, c'est les œuvres qui vont déterminer la destination ou la conclusion de la personne. Et deuxièmement, étant donné que parmi les œuvres qu'on fait, c'est les dernières qui ont le plus d'importance, parce que c'est là-dessus qu'on sera jugé, non pas que ce qu'on a fait au début de notre vie, mais qu'est-ce qu'on a fait à la fin. Et c'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas témoigner pour quiconque du paradis ou de l'enfer, de dire un tel, lui là, il va au paradis, c'est sûr. Ou lui, c'est sûr, il va en enfer. Tu ne peux pas dire ça. Parce que tu ne peux pas savoir comment la vie de cette personne-là va se conclure, comment il va terminer. Et c'est seulement Allah Azza wa Jal qui le sait. Donc, tu ne peux pas déterminer ou dire ça avec certitude. C'est comme il y a un jeune frère musulman qui était dans le quartier. Ça, je le rencontre de temps en temps. À chaque quelques années que je le rencontre, malheureusement, le jeune, qu'Allah le guide, il s'éloigne petit à petit de la guidance. Quand il était plus jeune, il était plus accroché à l'islam et il s'accrochait à la pratique et il s'accrochait à la sunna. Mais malheureusement, j'ai remarqué, à chaque fois que je le vois, il y a quelque chose qui diminue dans sa pratique ou dans son attachement à la sunna. Et quand je l'ai vu dernièrement, effectivement, Allah al-Musta'an, il était vraiment rendu différent. Je ne le reconnaissais presque pas. Et il m'a dit, parce que c'est un jeune qui aimait l'islam beaucoup, et il écoutait beaucoup des prêcheurs arabophones, donc il sait comment il connaît leur mimique, comme on dit, il sait comment leur expression, comment parler comme eux. Alors quand il m'a vu, il commençait à me dire, en arabe, t'as pas besoin de faire tout ça. Hein? Toi, depuis toutes ces années, t'as jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Il me dit, t'as pas besoin de faire tout ça. C'est pas nécessaire. Il a dit, toi, tu vas au paradis, ça y est. C'est fini. T'as pas besoin de te fatiguer encore, tu vois. C'est pas si dur que ça. Donc, j'étais choqué de le voir me dire ce genre de choses. Et je lui ai dit, comment tu peux être si certain que ça? Hein? Qui sait comment il va conclure sa vie? Et Abu Bakr, juste une parole de Abu Bakr radiallahu anhu qui dit, si je rentre mon pied, un pied dans le paradis, je ne serai pas en sécurité tant que je n'aurai pas rentré le deuxième. Donc, si c'est Abu Bakr radiallahu anhu, le meilleur de cette umma, qui dit une parole comme celle-là, qui sommes-nous pour penser que le paradis est déjà gagné, et de penser qu'on est déjà en sécurité et que tout est déjà dans la poche, comme on dit. Donc ça, faut vraiment, ça c'est le ghurur, c'est la tromperie du shaitan qui nous égare justement pour qu'on se sente en sécurité ou pour qu'on se sente bien et pour qu'on on baisse les bras, hein, ou qu'on baisse notre garde et qu'on cesse de faire attention pour que justement on puisse tomber dans les pièces du shaitan par la suite. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, il dit, « Fafi hadha al-hadith al-azim, jumlatun min al-fawa'id. » Donc dans ce hadith-là, le cheikh, il dit, il y a plusieurs points bénéfiques. Et donc il va mentionner 5 points. Il dit, « Al-awwal, bayanu qudratillahi azza wa jal, ala khalqi hadha l'insan, wa naqlihi min tawrin ila tawr. » C'est-à-dire, premièrement, la toute puissance d'Allah Azza wa Jal, hein, du fait qu'il a créé cet être humain et qu'il l'a fait passer d'une étape à l'autre, hein, dans l'évolution, dans sa création. On voit que l'être humain, il traverse plusieurs étapes dans son développement, à partir du moment qu'il était un spermatozoïde jusqu'à ce qu'il rencontre l'ovule, qu'il se colle à la paroi de l'utérus, qu'il commence à se développer et qu'il devienne finalement, après 120 jours, un être vivant avec l'âme qui vient souffler, qui vient être soufflée dans son corps et qui commence à se développer jusqu'à ce qu'il puisse sortir du ventre de sa mère, puis finalement grandir et devenir un enfant et devenir un adulte et après devenir une personne âgée, un vieillard. Et puis mourir finalement, se décomposer dans la terre. Donc tout ça, Allah Azza wa Jal, on voit sa toute puissance dans ces développements-là. Et il dit deuxièmement, ثانياً فيه إثبات القضاء والقدر لأن الملك يكتب رزق الإنسان وأجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد. Donc deuxièmement, l'affirmation du décret divin et de la prédestination, parce que l'ange vient pour écrire la subsistance de l'homme, son terme, son œuvre, et est-ce qu'il sera malheureux ou heureux. Thalithan, fihi anna al-jannata wal-nar la tudkhalan illa bi'amal. Imma bi'amal ahli al-janna fayadkhul al-janna walau bi'amal qalil fa idha khutima lahu bi'amal salih دخل الجنة وإما بعمل أهل النار فيدخل النار ولو عمل ابتداء بعمل أهل الجنة لأنه في آخر عمره عمل بعمل أهل النار كأن يرتد فيموت على الردة فيكون من أهل النار والعياذ بالله. Donc il dit troisièmement, il y a le point qui indique que le paradis et l'enfer, on ne peut y rentrer que par nos œuvres. Soit que c'est les œuvres des gens du paradis, alors on rentre au paradis, même si c'est un peu, quelque peu, des œuvres qui sont très peu, mais si on termine par des bonnes œuvres, on rentre au paradis. Et il dit, « Wa imma bi amali ahli an-nar », soit par les actions des gens de l'enfer, alors on rentre dans l'enfer. Et il dit que c'est soit que, même si c'est parce que, même si c'est auparavant, on faisait des actions des gens du paradis, et que à la suite de notre vie, on a changé, jusqu'à ce que par la suite, on apostasie, et qu'on meurt mécréant, apostat, à ce moment-là, on rentre en enfer. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est possible. Voilà, iyadu billah. Et un point peut-être qui est intéressant, ou qui est bien à mentionner, c'est juste que, lorsqu'on dit que on ne peut rentrer au paradis ou en enfer que par nos œuvres, il faut comprendre une chose, c'est que les œuvres ne sont pas équivalentes à la récompense. D'accord? C'est-à-dire que les œuvres ne sont pas le prix du paradis. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, personne ne peut rentrer au paradis que par la miséricorde d'Allah. D'accord? Parce que si on devait comparer le paradis et sa valeur et les œuvres qu'on a fait, ne pourraient jamais être suffisantes pour qu'on puisse rentrer au paradis. D'accord? Donc c'est uniquement par la miséricorde d'Allah qu'on peut rentrer. Sauf que sans les œuvres, on ne peut pas rentrer au paradis non plus. Donc c'est par les œuvres qu'on obtient la grâce d'Allah et sa miséricorde. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour les gens de la pour les mécréants, pour l'enfer, je pense pas que c'est la même chose. Parce que c'est pas comparable. Pourquoi? Je te dis pourquoi. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que la grâce d'Allah, elle est beaucoup plus grande que sa colère, Déjà, il l'a dit dans le Coran et dans les hadiths aussi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Donc la miséricorde d'Allah, elle a devancé la colère d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que chaque hasanat qu'on fait, elle est multipliée par 10, ou par 700, ou par plus encore. Tandis que la sayi'a, la mauvaise action qu'on fait, elle est toujours une sayi'a. C'est toujours un péché. C'est ça. Celui qui fait un péché ou un mal, il n'a que le mal qu'il a fait comme rétribution. Tandis que celui qui fait une bonne action, cette bonne action-là peut être multipliée par des multiples et des multiples et des multiples. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce d'Allah, elle est beaucoup plus grande que sa colère et que son châtiment. Donc il n'y a pas de comparaison. Et l'exemple aussi, c'est que pour remplir le paradis, il crée des nouvelles créatures par sa miséricorde et il les fait rentrer. Tandis que pour remplir l'enfer, il ne crée pas de nouvelles créatures, il écrase l'enfer pour la rétrécir. Hein? Par sa miséricorde. Subhanallah. Donc, c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il va mettre son pied sur l'enfer. Jusqu'à ce que l'enfer dise « Qat, qat !» Parce que l'enfer a dit « Yani, hal min mazid ?» L'enfer a dit « Hal min mazid ?» Est-ce qu'il y en a encore plus ? Alors à ce moment-là, Allah Azza wa Jal, il met son pied dessus, puis elle s'écrase. Hein, jusqu'à ce que yani, il y a plus d'espace. Et ça, c'est par sa miséricorde. Donc, ça, on voit qu'il n'y a pas de comparaison entre la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour les gens du paradis, puis la miséricorde qu'il a pour les gens de l'enfer. C'est différent. Mais ce n'est pas, comme on dit, qu'on rentre au paradis que par la miséricorde d'Allah. On rentre en enfer par la justice d'Allah. Il n'y a pas d'autre chose. Rabi'an. وفيه أن الأعمال بالخواتيم فعلى الإنسان أن لا يغتر بصلاته وصلاحه واستقامته بل عليه أن يخشى من سوء الخاتمة وعلى العاصي أن لا يقنط من رحمة الله بل يرجو حسن الخاتمة ويسأل الله حسنها. Donc ici le cheikh il dit comme quatrième point que il y a dans ce hadith aussi le fait que les œuvres ont la valeur selon la terminaison, la conclusion de nos œuvres. Comment on termine nos œuvres? Comment on termine notre vie? Donc l'être humain ne doit pas se laisser tromper par sa prière, par sa piété, par le fait qu'il est sur la droiture aujourd'hui. Il doit toujours avoir peur d'avoir une mauvaise conclusion de sa vie. Et la personne qui est dans le péché, par exemple, elle ne doit pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Elle doit toujours espérer en une bonne conclusion et une bonne fin et demander à Allah Azza wa Jal de lui donner une bonne conclusion. Donc ça, tu dois implorer Allah tout le temps pour demander à Allah, « Oh Allah, donne-moi la bonne conclusion. Hein? » Yani, as'aluka husna al-khatima. Ya Rabbi, as'aluka husna al-khatima. Toujours, tu dois demander à Allah Azza wa Jal husna al-khatima. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans le hadith, innama al-a'malu bil-khawatim. Bil-khawatim, c'est-à-dire par la façon dont tu conclus ta vie. Et ça, il y a une sagesse. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il a caché la date le moment de notre mort? Justement pour que l'être humain, il continue tout le temps à faire des efforts pour faire des bonnes œuvres jusqu'à la fin. Parce que si quelqu'un savait la date de sa mort à l'avance, il pourrait attendre, de dire, par exemple, moi, je veux faire ce que je veux jusqu'à ce que la date de ma mort arrive. Hein? Puis finalement, il essaierait de faire des bonnes œuvres à la fin pour se racheter de tout ce qu'il a fait comme bêtise. Mais personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Et des fois, tu vois qu'il y a des gens... ils sont en bonne santé, puis ils vivent dans le mal et ils font toutes sortes de crimes et de péchés. Puis, il leur arrive une grave maladie ou un grave accident. Et là, ils voient presque la mort, hein, dans le sens qu'ils arrivent, ils voient qu'ils ont manqué, ils sont arrivés proches de mourir. Alors là, ils réalisent, hein, ils reprennent leur sens et ils commencent à réaliser qu'ils vivent pas correctement, alors à ce moment-là, ça les amène à chercher un moyen pour changer leur vie. Et des fois, il y a des choses comme ça que Allah Azza wa Jal, il fait arriver dans la vie de quelqu'un qui peut l'amener à se remettre en question et à se corriger dans ses mauvaises façons de vivre. Et des fois, ça peut être la mort de quelqu'un, hein, qui le fait réfléchir à la réalité de la vie, puis que ça le réveille et qu'il revient à lui-même. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, le père de ma sœur qui était décédé, ça m'avait vraiment marqué. Ça m'a vraiment frappé. Ça m'a fait comprendre que la vie, elle n'est pas éternelle. Hein? La vie, elle n'est pas éternelle. Et cette personne que je voyais, qui revenait tout le temps, qui s'en allait, qui revenait, c'est comme le soleil. Hein? On le voit, chaque soir, il part. Mais on sait que le lendemain, il va être là le matin. Hein? Mais cette personne qui est morte, elle ne reviendra plus. Hein? Tu ne vas pas aller pour ouvrir la porte un jour, pour t'entendre frapper, tu te dis « Ah, c'est lui ». Non, parce que tu sais qu'il est mort, c'est fini. Il ne va plus jamais revenir. D'accord? Donc, c'est comme ça. Nous, on s'habitue à quelque chose comme ça, mais tout a une fin. Même le soleil qui revient chaque matin, un jour, il ne va pas revenir. Hein? Il va revenir de l'autre sens. Et là, ce sera la fin. Allah al-Musta'an. Et donc, c'est ça. La bonne fin, ça, c'est très, très important de rester. C'est pour ça Allah dit « Fala tamutunna illa wa antum muslimun ». « Fala tamutunna illa wa antum muslimun ». Ne mourrez que lorsque vous êtes musulman, lorsque vous êtes soumis à Allah. Ça, c'est un ordre de la part d'Allah qui nous encourage à faire des efforts pour mourir sur la foi, pour mourir sur l'islam. « Khamisan », ça, c'est le dernier point. Le cheikh il dit فيه انه لا يشهد لاحد بجنه او نار وانما يرجى للمحسنين ويخاف على المسيئين لان الشهاده لا بد فيها من خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم ان هذا من اهل النار وهذا من اهل الجنه. Donc cinquièmement, on ne peut pas témoigner pour quelqu'un qu'il sera au paradis ou à l'enfer, mais on espère pour les gens qui faisaient le bien qu'ils seront au paradis, et on craint pour ceux qui ont fait du mal qu'ils soient en enfer. Mais le témoignage de ce genre de choses, si on le fait, doit être basé sur une information, c'est-à-dire une référence de la révélation des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un tel ou un tel est au paradis ou en enfer. Donc, Abu Lahab, on sait qu'il est en enfer. On a une preuve dans le Coran. Hein? Parce que Allah il a dit que Abu Lahab il est dans l'enfer. Il y a des gens peut-être dans la sunna qui sont mentionnés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il sera en enfer. Dans ce cas-là, on peut dire oui, il est en enfer. Ou quelqu'un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné comme étant parmi les gens du paradis. Donc on va dire oui, celui-là il est dans le paradis. En dehors de ça, on n'a pas le droit d'affirmer qu'il sera en paradis ou en enfer, puisque on ne sait pas. Ça fait partie du raïb pour nous. Mais comme le cheikh il explique, on espère le bien pour les gens du bien et on craint le mal pour les gens du mal. Et ça on peut faire rentrer dans ça aussi le fait de dire que quelqu'un est un martyr, hein, de dire un tel fulan shahid. On l'entend souvent chez des gens, ils disent oh, le martyr un tel, hein, le martyr un tel. Ça c'est pas permis de l'affirmer de cette manière comme si on était certain de ça. Parce que al-shahada, le fait d'être un martyr, c'est seulement Allah Azza wa Jal qui le sait. À moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait mentionné à propos d'une personne, il ne parle pas selon ses passions, il parle selon la révélation. Mais en dehors de lui, qui peut dire ça? Personne. D'accord? Donc, quand vous entendez surtout des fois des hizbiyin, hein, des gens de bid'a qui parlent de leur fondateur, le fondateur de leur groupe, en disant al-shahid, Hassan al-Banna, al-shahid, Sayyid Qutb, hein, ou des choses de ce genre, ça c'est grave. Une fois j'ai entendu un prêcheur d'Ikhwan, il disait Shahid al-Islam, Sayyid Qutb. Comme ça il dit, Subhanallah. Comme s'il a déjà la certitude qu'il sera au paradis, yani, hein, et qu'il est martyr, et que Allah accepte, hein, de lui qu'il soit martyr. Comment il aurait pu être un martyr, hein? Il a été exécuté pour le tort qu'il faisait. Hein? C'est un châtiment qu'il a reçu pour le mal qu'il faisait. Hein? À la kulli hal, c'est un mufsid, C'est pas un martyr, nasar Allah al-afia. Hein? Ala al-batil, nasar Allah al-afia, nasar Allah al-afia. Tu voulais dire quelque chose? Pour les koufars et les mushrikines, cette question-là, elle a été expliquée aussi par les ulama. Et il y en a qui disent, parmi les ulama, tu peux dire des gens qui sont morts sur le kufr ou sur le shirk, qu'ils sont en enfer, de façon générale. Hein? Tandis que certains ulama, ils disent également que même à propos des koufars et des mushrikines, tu ne dois pas dire de façon définitive s'ils sont au paradis ou en enfer. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec eux. Dans l'akhirah, c'est Allah qui va les juger. Hein? Peut-être que parmi eux, certains se sont repentis ou se sont convertis avant leur mort. Allahu a'lam. En tout cas, ouais, certains aussi peut-être n'ont pas entendu le message. Nous on dit que celui qui est mort sur le kufr, c'est un kafir. Et les kuffars, de façon générale, sont en enfer. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de dire d'une personne spécifique, il est au paradis ou il est en enfer. C'est ça le problème. Mais de dire les koufars sont en enfer, les mouchriquins sont en enfer, les croyants sont au paradis, ça, il n'y a pas de problème. Parce que ça, c'est général et c'est ça que Allah nous dit dans le Coran. Mais le problème, c'est quand tu veux parler d'un individu spécifique, c'est là, il faut avoir un dalil, il faut avoir une preuve. D'accord? Même la malédiction aussi, c'est la même chose. On a le droit de faire la malédiction de façon générale sur les gens, dans le sens de, on dit la'natullahi ala al-kafirin, la'natullahi ala al-zalimin, mais de dire la'natullahi ala fulan ou fulan, ça, on n'a pas le droit. Non. Mais encore là, il y a des ulama qui divergent sur cette question-là, mais cette position, c'est ça qui est la bonne. Wallahu a'lam. Et même que le fait de dire ça, et à cause du fait qu'il a dit ça, il a été en enfer, tu vois. Parce qu'il lui, il faisait beaucoup d'adoration, puis son frère faisait beaucoup de péchés. Alors à chaque fois qu'il le voyait faire des péchés, il lui dit, cesse de faire des péchés. Et une fois, il l'a revu encore en train de faire des péchés, il a dit, cesse de faire des péchés. Il a dit, laisse-moi entre moi et mon Seigneur. Est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller? Et là, après, il lui a dit, « Wallahi, la yaghfir Allahu lak. » Il dit, « Je jure par Allah que Allah ne va pas te pardonner. » Et au jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal, il lui a dit, « Yani, akunta bi'alima, aw kunta bima ladayya qadira, udkhul an-nar. » Il lui dit, « Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais? Hein? » Il lui a dit, « Ou bien c'est toi qui as le pouvoir de qu'est-ce qui est en ma main. » Il dit, rentre en enfer. Et il a dit à l'autre qui faisait des péchés, Udkhul al-Jannah bi rahmati. Hein? Rentre au paradis par ma miséricorde. Donc Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux. Et quelqu'un, des fois, peut-être tu le vois faire des péchés, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait après. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur au moment qu'il le fait. Est-ce qu'il n'a pas des remords? Ou est-ce qu'il n'est pas gêné? Ou est-ce qu'il n'a pas honte? Et comment il se sent après, et est-ce qu'il ne demande pas pardon, tu ne sais pas. Donc, ne juge pas de façon définitive le sort de cette personne dans l'au-delà, parce que ça sort de ton contrôle de toute façon, c'est en dehors de ta capacité de juger justement. Ça, c'est des choses que Allah va juger. Donc, laisse ces choses-là à Allah, n'affirme pas le paradis ou l'enfer, hein, ne te mets pas à la place d'Allah. C'est Allah qui va le juger. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum.